Europe 1, il est 8h.
Nous avons appris que le périmètre de cette enveloppe concernait à la fois le secteur privé et le secteur public. Ça fera moins de sous pour le secteur public.
Une enveloppe de 6 milliards d'euros. L'argent magique arrive à l'hôpital. Les premières précisions dans un instant. Le grand scientifique, comme il se définit lui-même, a fait son grand raout. 3 heures d'audition hier à l'Assemblée de l'infectiologue le plus connu de France qui a dénoncé les conflits d'intérêts de certains de ses confrères.
Ces relations de familiarité amènent à une vision et à un écosystème qui est d'une nature à changer le jugement des choses.
Le jugement des salariés sera-t-il tout à fait serein dans les entreprises avec la nouvelle formule du chômage partiel ? Le leader de Force Ouvrière parle déjà de chantage au licenciement.
Quand il y a une crainte sur la perte de l'emploi, vous n'êtes pas en position de force pour négocier au niveau de l'entreprise.
Ça commence à faire beaucoup pour le parquet national financier. 3 affaires ressuscitées en 2 semaines. Après l'enquête sur François Fillon, après celle sur Alexis Kohler, bras droit d'Emmanuel Macron, c'est celle sur Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth, dont on reparle. Le PNF aurait espionné de nombreux et puissants avocats. Accusation du journal Le Point. Et puis le lauréat du premier prix littéraire Europe 1 GMF, Karl Aderholt, qui nous raconte une histoire vraie en 1916. Des comédiens envoyés sur le front pour divertir les soldats.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, avec qui vous dialoguez dès 8h30. Inscrivez-vous déjà sur le hashtag Europe 1. 8h45, Nicolas Canteloup et sa revue de presse. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au total, nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros pour notre économie. C'est inédit.
500 milliards pour l'économie et combien pour les soignants ? 6 milliards, c'est le chiffre qui a fuité hier, proposition mise sur la table par le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le cadre du Ségur, cette négociation express censée aboutir pour le mois de juillet.
Bonjour Ève Roger.
Bonjour.
Chef du service société d'Europe 1, c'est 6 milliards d'euros, est-ce que c'est suffisant ? Et puis d'abord, est-ce que l'on sait qui va en bénéficier ?
Eh bien, tous les agents de la fonction publique hospitalière, ça fait quand même 1 million de personnes, des infirmiers aux aides-soignants, kinés, orthophonistes, mais aussi agents administratifs et techniques. Bref, tous, sauf les médecins qui négocient à part. Alors vous me demandez si c'est suffisant ? Eh bien, une belle somme, 6 milliards d'euros. Un responsable syndical disait la semaine dernière, si le ministre vient avec 5 milliards, ça ne va pas le faire. Donc là, on est à 6. Mais ce qui a surpris tout le monde hier, c'est que les hôpitaux et les EHPAD publics devront partager le gâteau avec le secteur privé. C'est la surprise du chef. Écoutez l'inquiétude de la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, Zéna Brier.
Ces 6 milliards, pour nous, correspondent aux besoins de financement pour les établissements publics. Or, nous avons appris que le périmètre de cette enveloppe concernait à la fois le secteur privé et le secteur public. Donc, ça fera moins de sous pour le secteur public.
Donc, on le comprend. Maintenant qu'Olivier Véran a enfin dévoilé ses cartes, la négociation va rentrer dans le dur. Objectif le 15 juillet au plus tard. D'ici là, les syndicats, pour maintenir la pression, appellent à une nouvelle journée d'action mardi prochain, le 30 juin.
Les explications d'Ève Roger pour Europe 1. Je ne suis pas un prophète, même si je suis barbu. Le style était là hier. La blouse blanche avait laissé place à une veste grise. Mais c'était bien Didier Raoult qui s'exprimait devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Il ne sait pas si l'épidémie va repartir. Ce qu'il sait, en revanche, c'est que l'organisation du dépistage en France est totalement archaïque, je le cite, et que certains de ses confrères les plus éminents sont un peu trop proches, à son goût, des grands laboratoires pharmaceutiques.
Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. Et ces relations de familiarité ou de départ ensemble, de voyage ensemble, amènent à une vision et à un écosystème qui est d'une nature à changer le jugement des choses.
Sur le front de l'épidémie, 256 patients de retour à leur domicile hier. La baisse continue aussi en réanimation. 24 personnes en sont sorties en 24 heures.
Les nouvelles règles du chômage partiel de longue durée données hier par Emmanuel Macron.
Pour continuer à être bien indemnisé en tant que salarié et bien remboursé par l'État quand on est un employeur, il faudra qu'il y ait un accord signé dans l'entreprise ou au niveau de la branche professionnelle.
Peu mieux faire, selon le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, à sa sortie de l'Élysée.
De l'aide publique qui a pour vocation à protéger les emplois et les compétences, nous demandons à ce qu'elle soit conditionnée, soumise à contrôle et à sanction quand les conditions ne sont pas remplies. Et la condition, c'est pas de suppression d'emplois, bien évidemment. Et c'est là le défaut. C'est l'accord d'entreprise qui devra prévoir les engagements en matière d'emploi. Mais je le redis, quand il y a une crainte sur la perte de l'emploi, vous n'êtes pas en position de force pour négocier au niveau de l'entreprise.
Le leader de FO, Yves Verrier, au micro Europe 1 d'Élise Dangean. Vous vous souvenez peut-être de Paul Bismuth, ancien président de la République, plus connu, c'est vrai, sous le nom de Nicolas Sarkozy, mais qui communiquait en utilisant ce pseudonyme avec son avocat Thierry Herzog sur une ligne téléphonique ouverte spécialement à cet effet, mais que des magistrats avaient découverte et mise sur écoute.
L'avocat et son client en ont-ils été alertés ? Les enquêteurs en étaient persuadés ? Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
Selon le magazine Le Point, des investigations ont été menées par le parquet national financier à la recherche d'une taupe. Le journal parle même d'espionnage.
Oui, c'est l'affaire dans l'affaire et elle scandalise plusieurs grands avocats parisiens dont les factures téléphoniques ont été épluchées, ce qui, je le précise, n'est pas illégal. Tout ça remonte au début de l'année 2014 quand les juges enquêtent sur Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, soupçonnés de vouloir corrompre un magistrat. Entre le 25 et le 26 février, la teneur des conversations entre les deux hommes change radicalement, à tel point les policiers et les juges sont persuadés que l'ancien président et son conseil ont été alertés, qu'ils savent que leur ligne clandestine est sur écoute. Voilà pourquoi le parquet national financier a discrètement ouvert une enquête de son côté pour tenter d'identifier la taupe. D'après nos confrères du Point, plusieurs grands avocats ont été ciblés, Éric Dupond-Moretti, Hervé Temim, Jean Veil, entre autres. Alors pas au hasard, mais parce qu'ils avaient été en contact téléphonique le 25 février 2014 avec Thierry Herzog. Le parquet national financier ne les a pas placés sur écoute, n'a pas eu accès à leurs conversations, mais a étudié durant deux semaines leurs factures détaillées, la liste de leurs correspondants et pour certains, leur bornage téléphonique. En vain, l'enquête n'a pas permis d'identifier la taupe supposée, affaire classée, mais tenue secrète jusqu'au début de cette année. Sur le fond, Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog seront bien jugés fin novembre pour corruption et trafic d'influence.
Les précisions en direct de Guillaume Bié pour Europe 1.
Aucune prise de parole et surtout aucune explication de la part de la RATP alors qu'un train a déraillé hier en plein Paris.
Pas de blessés, cette rame de RERB ne transportait pas de voyageurs, mais un trafic très perturbé aujourd'hui est coupé entre Denfert-Rochereau et La Place. Ce qui tombe mal alors qu'un épisode de pollution touche l'agglomération parisienne et que seules les voitures aux vignettes critères 0, 1 ou 2 sont autorisées. Autorisé à circuler.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Dépistage des assesseurs dans toutes les communes de l'Essonne avant le vote de dimanche. Une façon d'utiliser les stocks de tests.
Et puis le président du Kosovo inculpé de crimes contre l'humanité alors qu'il était dans un avion pour Washington.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal. François Geffrier, Mathieu Béliard.
À trois jours du second tour des municipales, l'ultime débat parisien a été reprogrammé en urgence ce soir alors qu'il devait avoir lieu hier.
La maire et candidate Anne Hidalgo s'était retirée, affichant ainsi son soutien aux salariés grévistes de BFM TV. Grève suspendue, reprise des discussions aujourd'hui avec la direction sur un plan prévoyant la suppression d'un tiers des effectifs de la maison mère, Next Radio TV.
Dans l'Essonne, on a trouvé une façon d'utiliser les tests de coronavirus avant qu'ils ne périssent. En proposant aux communes où se tient un second tour dimanche de faire dépister tous ceux qui tiendront les bureaux de vote.
Comme à Rouenville, sous Dourdan, où s'est rendu pour Europe 1 Pierre Herbulot.
Dépisté.
Dominique, tu es prête ?
Dans un salon de la mairie, Dominique, la présidente du seul bureau de vote de la ville, donne un peu de son sang pour la bonne tenue de l'élection.
Je vais jeter une petite piqûre au bout du doigt pour avoir une jolie goutte de sang. Et on attend la lecture qui se fera dans 10 minutes.
Lorsqu'on nous a proposé de faire ces tests, bien évidemment, on a tout de suite dit oui, puisque c'est une question de santé publique.
Comme elle, 6 assesseurs sont testés, un dépistage sur la base du volontariat. C'est la toute dernière action du maire sortant, Yannick Amoignon.
La prudence s'impose aujourd'hui. On le voit de par le monde, des foyers qui redémarrent, même un petit peu dans certaines régions françaises où le taux de diffusion augmente un petit peu.
Dominique ? Alors, je peux te dire que ton test est négatif. Donc, actuellement, tu n'as pas le Covid.
Rassuré pour dimanche ?
Pour ce qui me concerne, oui.
Ces dépistages ne remplacent pas les précautions du premier tour, mais ils sont une garantie supplémentaire pour les électeurs de Rouenville-sous-Dourdan, où l'abstention avait plus que doublé en mars dernier.
À l'étranger, le président du Kosovo rattrapé par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
22 ans après la guérilla dans son pays, Vincent Hervouet, c'est un vrai coup de théâtre.
Imaginez Mathieu, Hachim Tachi est dans l'avion, En route pour Washington, il doit y retrouver le président serbe. Les Américains veulent obtenir la paix des braves. Les Balkans ont les yeux tournés vers ce sommet historique. Et là, patatras, il faut rentrer tout de suite. Personne ne s'attendait à ce coup de théâtre parce que le Kosovo a été une bérésina judiciaire. L'ancien tribunal pour l'ex-Yougoslavie n'a pas condamné un seul Kosovar. Tous acquittés et pour cause, les témoins étaient systématiquement assassinés. Le Kosovo, donc, c'est ça. Mais en 2010, un sénateur suisse a remis un rapport au Conseil de l'Europe. Dick Marty raconte comment la guérilla a kidnappé, torturé, liquidé ses adversaires politiques kosovars, assassiné des centaines de civils serbes et roms. Et le rapport Marty lève un scandale inouï, un trafic d'organes prélevé sur les prisonniers avant leur exécution. Du coup, une cour spéciale a été créée et pendant 5 ans, elle aura enquêté en secret. Et hier, elle a frappé, soudain, fort, à la tête.
Hashim Tashi est mis en cause pour une centaine d'assassinats, des disparitions, des persécutions et de la torture.
Dans le dossier Marty, il est partout. Les membres de son clan l'appellent le parrain. Son bras droit était le chef des services secrets, devenu le chef du parti. Tashi lui-même s'est fait prudemment élire en 2016 à la présidence de la République. Sur le tapis rouge, ça se voit moins quand on a les mains pleines de sang, mais ça ne garantit plus l'impunité.
Le regard international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1.
C'est la première fois qu'Europe 1 remet un prix littéraire. Et c'est une fierté ce matin que d'avoir reçu Karl Aderold, l'auteur du Théâtre des Nuits, qui remporte donc ce prix Europe 1 GMF.
Un livre qui raconte l'engagement de comédiens pendant la Première Guerre mondiale, des comédiens venus distraire les soldats au front.
Ils avaient très peur de faire encore du bourrage de crâne, comme on disait à l'époque. Donc ils ont joué plutôt des pièces de vaudeville, des petites pièces légères avec des amants dans le placard, des maîtresses infidèles. Ce qui était pour des soldats qui étaient privés de femmes depuis 2 ans, un peu paradoxal, mais bon, manifestement, le répertoire a plu.
Karl Aderold, auteur du Théâtre des Nuits, prix littéraire européen GMF 2020.
2020, oui, le premier tout en haut, il aura son nom tout en haut de la liste, tout en haut de ce palmarès. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h. Et à 8h14, vous le savez, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La France sort l'artillerie lourde en matière de chômage partiel. Dispositif renforcé et prolongé, mais sera-t-il suffisant alors que la casse sociale s'accélère? Notre invité ne veut pas être la ministre du chômage. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail.
A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Les chiffres du chômage du mois de mai seront donc publiés tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont déjà le reflet de la casse sociale en cours?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une situation de l'emploi qui évidemment inquiète tout le monde. Ça inquiète comme salarié, comme citoyen, comme parent. On a connu pendant 3 ans une vraie embellie, une baisse du chômage. Je vous rappelle, il y a 4 mois exactement, je vous annonçais les 8,1 taux de chômage. C'était le plus bas taux de chômage depuis 11 ans.
Il y a 4 mois, il y a une éternité.
Ça nous paraît une autre époque et on allait vers les 7%. Bon, aujourd'hui, évidemment, la situation est très sérieuse. La crise économique qui suit la crise sanitaire amène des nuages noirs sur le sujet de l'emploi. Ceci dit, la situation est un peu contrastée parce qu'on a eu beaucoup de signaux inquiétants, évidemment. Plus de 800 000 personnes en plus au mois d'avril en catégorie A. Catégorie A, c'est ceux qui n'ont pas du tout de travail. Alors par contre, il y avait une baisse de ceux qui avaient un peu de travail. Et aujourd'hui, on voit quand même des signes intéressants de reprise, parce que j'ai pas encore les chiffres de tout à l'heure, mais vous avez vu qu'il y a 2 jours, les déclarations d'embauche ont bondi de 75%. Au mois de mai.
Ça va se traduire dans les chiffres
au mois d'avril. Donc, logiquement, on voit aujourd'hui la reprise. Il y a des secteurs qui reprennent bien, il y a des secteurs qui se mettent à réembaucher. Moi, je regarde quasiment tous les matins comme ministre du Travail et donc de l'Emploi. Je regarde les offres d'emploi sur Pôle emploi. Je vous invite d'ailleurs à le faire. Eh bien, il y en a 595 000, 337 ce matin. Donc, il y a quand même des offres d'emploi. Il y a quand même une dynamique.
Alors, vous regardez, c'est tout à fait normal, Madame la Ministre, qui vous rassure, ce qui peut aussi nous rassurer.
Je vois tous les signes inquiétants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout ce qu'on peut faire pour reprendre l'activité, c'est ça qui sauvera le plus l'emploi. Et moi, j'incite vraiment tous les employeurs à pas être attentistes. Tous ceux qui ont des besoins, il y a quand même de la reprise. Et là, on avait des feux verts un peu structurels au mois de février. Ils ne sont pas perdus. Il faut repartir partout.
Mais on est d'accord que la promesse du président de la République d'atteindre 7%, je me souviens de ce chiffre de chômeurs d'ici à la fin du quinquennat, ça, c'est plus du tout atteignable. Ça, c'est même plus d'actualité.
Ça, c'est plus atteignable. Mais il faut repartir. On va avoir un creux de vague très dur. Il faut serrer les coudes. Il faut protéger les gens. Protéger les salariés, protéger les entreprises et après se donner les moyens de repartir.
Justement,
c'est le plan de relance.
Vous comptez sur le système de chômage partiel de longue durée à partir du 1er juillet pour éviter une plus grande hémorragie de l'emploi. C'est un garde-fou pour vous ?
Oui, vous avez vu il y a 3 mois qu'on a mis en place le chômage partiel qu'on connaît aujourd'hui. Je crois que c'est un mot que la plupart des Français ne savaient pas ce que c'était avant. Et puis penser encore moins que ça les concernerait. Et puis c'est devenu un bouclier massif, un filet de protection massif. Et moi, je suis très fière d'avoir mis en place ce système à la demande du président de la République, plus protecteur d'Europe, qui a concerné au total, pas tout le temps les mêmes, mais près de 12 millions de Français. Et au mois d'avril, il y avait encore 7,8 millions de Français en chômage partiel. Donc on a fait ce bouclier massif. Maintenant, on est dans une autre situation. Là, il y a la reprise de l'activité. Mais il va falloir protéger les salariés, les entreprises dans des secteurs qui ont des perspectives, mais ça ne va pas aller tout de suite.
Mais pourquoi vous n'êtes pas allée plus loin, Madame la ministre du Travail ? Ce sont les accords d'entreprise qui définiront les engagements au niveau de l'emploi. Donc, il n'y a pas de votre part, il n'y a pas de la part de l'État une conditionnalité sur l'emploi. Pourquoi ne pas être allée plus loin ?
Alors, d'abord, j'explique peut-être qu'on a beaucoup discuté avec les partenaires sociaux dans le cadre des concertations sur l'emploi que je mène depuis 3 semaines à la demande du président. Et on a déjà décidé une chose très importante. On est la première fois qu'on fait ça en France. On crée un nouveau système qui va commencer le 1er juillet, qui permettra une alternative à beaucoup de plans sociaux et qui va permettre, sur des secteurs qui vont repartir, mais peut-être dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois, d'avoir le temps pour garder le maximum d'emplois et... en même temps se former, donner les moyens de repartir.
Mais il est renforcé, il est prolongé.
Et c'est sous, effectivement, condition d'accord dans l'entreprise ou dans la branche. C'est l'esprit des ordonnances de travail.
Oui, mais donc vous faites confiance, Muriel Pénicaud, à la négociation au syndicat.
Je fais confiance profondément au terrain et à la négociation.
Oui, mais concrètement...
C'est sur le terrain qu'on sait les perspectives d'activité, qu'on peut raisonnablement se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au maximum pour sauver l'emploi, on fait, et l'État
expliquez-nous, clairement, une entreprise qui bénéficie de ce dispositif, rien ne lui interdit de procéder à des licenciements.
Ah non, mais comme elle doit négocier son plan, mais imaginez une très grande entreprise qui a plusieurs branches. Il y en a peut-être une qui est vraiment, malheureusement, qui ne pourra pas repartir. C'est pourquoi empêcher les autres salariés des autres branches d'avoir une capacité à négocier pour pouvoir sauver leur emploi. C'est quoi l'activité partielle longue durée ? C'est au lieu de faire des plans de licenciement alors qu'il n'y a plus d'activité pour une partie, les salariés vont diminuer leur temps de travail, l'entreprise va s'engager sur des aspects d'emploi, de formation, d'activité, et l'État vient aider le pouvoir d'achat des salariés en complétant une partie du salaire qui va leur manquer, parce que si le temps de travail baisse, évidemment,
mais j'ai bien compris, Muriel Pénicaud, expliquez-nous, vous avez dit à l'instant que ce dispositif pourrait être une alternative justement pour ne pas engager de plans sociaux. Je vous donne un exemple concret. Dans la valse, malheureusement, des plans sociaux dans notre pays, le voyagiste Tui annonce pour sa filière française la suppression de 2 emplois sur 3. Les syndicats dénoncent le pire plan social de l'histoire du voyagiste, surtout qu'il a eu recours, Madame la Ministre, en France à ce dispositif de chômage partiel.
Alors, le chômage partiel de longue durée dont je parle, il n'existe pas encore, il se crée le 1er juillet et c'est justement ce qu'on voit aujourd'hui, tous les jours il y a une annonce, on voit beaucoup d'entreprises en difficulté, alors il y en a certaines qui étaient en difficulté avant, c'est maintenant que ça se concrétise et il y en a d'autres, c'est l'effet de la crise Covid, hein. Il y a les deux phénomènes, mais dans les deux cas, notre but c'est de donner le maximum aux acteurs socio-économiques la capacité à faire autre chose que du plan social. Parce que je crois que le plan social,
oui,
le chômage, c'est un coût humain terrible.
Sans contrainte, mais c'est un coût sans conditionnalité. Vous faites confiance au dialogue
énormes.
Social.
Ah non, mais
lesquels, Madame la Ministre ?
Vous avez déjà négocié dans une entreprise ? Moi, j'ai 20 ans d'expérience de ça. Bien sûr que le dialogue social, ça amène des contraintes. Ça amène du plus, mais ça amène, il faut que ça soit un accord gagnant-gagnant. Quelles sont les organisations syndicales qui vont signer s'il n'y a rien en face sur l'emploi, sur le maintien de l'emploi, sur la formation ? Il n'y aura personne qui signe, ils auront raison. Donc, bien sûr, par la négociation, simplement, au lieu de dire Moi, je suis ministre, je décrète ça dans un bureau à Paris et je vais dire comment ça va se passer dans toutes les entreprises. Je fais confiance au fait que c'est sur le terrain qu'on sait le mieux comment articuler l'économique et le social. Et l'État vient en appui pour que ce soit gagnant, gagnant, gagnant.
Dans un tel contexte, comment vous pouvez maintenir la réforme de l'assurance chômage ?
Alors, la réforme de l'assurance chômage, quand on l'a faite, elle avait un but qui était d'accompagner une reprise, d'accélérer la reprise en protégeant les demandeurs d'emploi et aussi en incitant au retour au travail.
C'était un autre monde et aujourd'hui, afflux de chômeurs massifs.
Tout en limitant la précarité, parce que je ne vais pas redire tout ce que je disais à l'époque, mais quand 7 embauches sur 10 en France, on était le seul pays en Europe comme ça, étaient des contrats très courts, on était parti sur un mauvais modèle.
Et aujourd'hui, avec les vagues de licenciements qui arrivent, les plans sociaux qui s'accélèrent, cette réforme,
vous ne pouvez pas la maintenir. C'est pour ça que j'ai dit, et que le président de la République l'a dit hier, d'ailleurs je suis en train de discuter avec les partenaires sociaux, on va ajuster les curseurs. Il y a certains aspects qui sont toujours valables, mais il y a des aspects qui ne...
Quels curseurs ? Les conditions d'ouverture des droits ? Le niveau des indemnités ?
Il y a des sujets qui, aujourd'hui, évidemment, il faut revoir parce que le contexte a changé.
Oui, pour les conditions d'ouverture des droits.
Ce qu'on appelle l'éligibilité, ça veut dire quoi en français normal ? Ça veut dire combien de mois il faut que vous ayez travaillé pour avoir le droit à l'assurance chômage. Là, c'est passé à 6 mois au mois de novembre dernier. C'est probablement trop dur dans le contexte. Et puis, y a aussi le bonus-malus pour les hôteliers et restaurants. Ils essaient déjà de sortir la tête de l'eau. Donc, il y a des sujets sur lesquels on va revoir les curseurs.
Sur les consignes sanitaires au sein des entreprises, des consignes assouplies désormais, il est désormais dit, et Muriel Pénicaud, c'est écrit noir sur blanc, le télétravail n'est plus une norme, mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d'un retour progressif en présentiel. C'est-à-dire que vous encouragez encore le télétravail ?
Oui, le télétravail, la crise, elle n'est pas terminée. Donc, si on peut travailler en télétravail, ne serait-ce qu'une partie de la semaine, ça fait quand même moins de regroupements dans les bureaux dans les transports. Après, on peut pas et on va pas, et ça n'a pas de sens de l'imposer. Moi, ce que je vois, ce que font beaucoup d'entreprises, et ça, c'est pas mal, c'est que les salariés reviennent en physique, mais par rotation. Il y en a qui viennent en début de semaine, d'autres en fin de semaine. Ça permet de recréer le lien. On se disait nous-mêmes, faire une interview face à face, c'est quand même pas pareil que croire qu'on est tous des images en 2D.
Face à face, mais à 4 mètres, pour raconter à nos auditeurs.
On aurait droit à 1 mètre maintenant. Ce que je veux dire, c'est que le lien social, parce que retrouver ses collègues, travailler, c'est de l'humain, c'est de la patte humaine. Mais moi, je pense aussi qu'il y a une autre raison. C'est que il y a 5 millions de Français qui ont expérimenté le télétravail. La plupart ne l'avaient jamais fait. Et il y en a 2 sur 3 qui aimeraient bien continuer. Je pense que ça va amener
Vous ne les découragez pas ce matin.
Non, et je pense que ça va même amener une révolution qui aura des aspects positifs dans le management, dans l'organisation des entreprises. Je ne crois pas au télétravail à 100%, parce qu'on a besoin du lien social. Mais alterner et combiner du télétravail et du présentiel, je pense que ça fait partie des évolutions de société et des évolutions des aspirations au travail.
Est-ce que vous confirmez, Muriel Pénicaud, un tour de vis sur la pratique du travail détaché ?
Oui, alors, travail détaché, d'abord le phénomène est d'importance parce que l'année dernière, c'est 580 000 travailleurs détachés qui sont venus en France. Mais il y a aussi des Français qui sont allés dans d'autres pays. Évidemment, il ne s'agit pas d'interdire, on croit à la libre circulation des travailleurs et tout le monde en bénéficie. Mais il faut mieux le réguler. Donc, pour ça, il faut faire 3 choses. Pourquoi le mieux réguler ? Parce que c'est l'équivalent de 250 000 emplois à temps plein. Bien, vous savez, moi, je vais chercher chaque emploi par les temps qui courent. Donc,
comment vous régulez ? On va continuer à en parler dans un instant.
Un, on a une bataille au niveau européen que nous menons et que je mène activement. On a gagné la première manche, on a gagné la directive détachée qui dit à travail égal, salaire égal, au même endroit. C'est applicable depuis le 1er juillet et je peux vous dire que c'est la victoire de la France, cette directive. Et maintenant, on est en train de se battre pour cotisation égale, c'est-à-dire même coût du travail pour éviter le dumping social. Deux, le contrôle. Nous voulons nous donner des moyens juridiques de pouvoir fermer immédiatement une activité ou un chantier qui ne respecterait pas les règles du salaire égal ou des déclarations. Et ça, aujourd'hui, je veux pouvoir fermer un chantier, quelqu'un, une entreprise, une activité qui ne joue pas le jeu. Et puis, troisièmement, c'est former plutôt que recourir au travail détaché. Le travail détaché, c'est très bien quand c'est le dernier recours, qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Ça ne doit pas être le premier réflexe.
Madame la
le
ministre,
premier réflexe, c'est de former des apprentis, former des demandeurs d'emploi.
Muriel Pénicaud, vous restez avec nous. Merci pour cet entretien. Et évidemment, il y a les questions des auditeurs. Elles sont très nombreuses, Mathieu.
Oui, sur le hashtag Europe 1 depuis tôt ce matin, je vois déjà Laurence, Thierry, Pascal, Jean-François. Ces questions qui arrivent dans quelques toutes petites secondes pour Muriel Pénicaud, la ministre du Travail sur Europe 1.
Il est 8h31 sur Europe 1. Muriel Pénicaud est l'invité de la matinale d'Europe 1. Vous dialoguez avec la ministre du Travail au 3921. Vous posez vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1.
Beaucoup de questions, Madame la ministre. On va commencer avec Laurence directement sur le hashtag Europe 1. Les droits au chômage vont-ils être prolongés pour les chômeurs ayant été empêchés de chercher un emploi du fait du confinement et de ses conséquences ?
Oui, bonjour madame. Donc on a ce que j'ai fait immédiatement dès le 14 avril, c'est un décret qui a permis de prolonger déjà tous les droits des chômeurs qui arrivaient en fin de droit. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on neutralise, comme vous le dites, toute la période de confinement. C'est-à-dire, en fait, il y a 3 mois on reporte finalement.
S'est arrêté en fait le 17
mars. En fait,
mars.
On a un peu gelé le calendrier, ce qui permet d'avoir un peu de temps. Alors après, maintenant, Pôle emploi est en train de se mobiliser massivement. Ils ont créé une nouvelle plateforme. Je pense notamment aux jeunes dont beaucoup ont besoin des jobs d'été pour assurer leur année. Il y a une offre qui s'appelle sur mobilisation emploi sur Pôle emploi, où il y a un espace spécial pour notamment l'emploi saisonnier de cet été, parce qu'il va y en avoir peut-être moins que les autres années, mais il va y en avoir. Il y en a déjà. Donc je crois qu'il faut se mobiliser tout de suite sur toutes les perspectives. Je disais qu'il y a près de 600 000 offres d'emploi.
Vous pouvez aller plus loin, Muriel Pénicaud, sur l'emploi des jeunes. Est-ce que c'est la piste d'un allègement de cotisations de charges qui est pour le moment retenue ?
Alors d'abord, on est tous d'accord avec les partenaires sociaux, le gouvernement. L'emploi des jeunes, ça doit être une priorité. Pas question d'avoir une génération sacrifiée. Moi, je suis mère de famille. C'est nos enfants, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir des entreprises. On ne peut pas donner un message aux jeunes qui est maintenant, c'est vous qui êtes la variable d'ajustement. Ça, c'est non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? 3 choses. La première, c'est qu'on a déjà pris des mesures que j'ai annoncées très importantes sur l'apprentissage. En gros, on dit aux entreprises... Il faut que vous continuez à former les jeunes. C'est une voie d'excellence, voie d'avenir. On était bien parti avec une réforme
pour faire
qui marchait extraordinairement.
Réponse, s'il vous plaît, courte. L'allègement de cotisations de charges.
Et puis, deuxièmement, on est en train de travailler sur différentes pistes. Il y aura une aide à l'emploi pour les jeunes. Et elle sera annoncée d'ici quelques jours. On est en train de la finaliser avec les partenaires sociaux. On ne l'a pas encore complètement arrêtée. Mais d'ici quelques jours, il y aura une aide à l'emploi pour les jeunes. Et puis aussi à la formation. Moi, mon but, c'est qu'il n'y ait aucun des 750 000 jeunes là, qui arrivent sur le marché du travail, qui se retrouvent sans rien. À cause du Covid-19.
De l'autre côté de la pyramide des âges, Pascal qui nous dit un mot sur le chômage de longue durée des seniors qui n'étaient pas brillants avant le Covid, du fait que les entreprises préfèrent embaucher des profils plus jeunes. Cette situation ne peut que se dégrader davantage, nous dit Pascal, pour la catégorie des chômeurs seniors.
Oui, alors ça fait partie des sujets de l'assurance chômage, de l'accompagnement et de Pôle emploi. Le taux de chômage des seniors n'était pas très élevé, était moins élevé que celui des jeunes. Par contre, tout le monde l'a vu autour de soi, quand on arrive au chômage et qu'on a plus de 55 ou de 57 ans, c'est très difficile de trouver. Donc,
ce qui risque d'arriver dans les semaines qui arrivent,
façon,
à beaucoup de Français.
Malheureusement, on va avoir plus de chômage. Ça, on ne peut pas l'éviter. On peut ralentir cette progression du chômage, on peut rebondir avec de la relance, mais on va avoir un trou d'air sur l'emploi qui commence et qui va arriver. Et ça, je crois que ça serait pas honnête de ne pas le dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille sur toutes les pistes. Et c'est pour ça, je crois que l'idée, c'est vraiment, chaque fois qu'on peut former ou embaucher, ou aider les entreprises à embaucher, il faut le faire dans cette phase-là. Parce que le pire, ça serait qu'on perde notre esprit combattant-entrepreneur et donc que du coup, on sursoit des recrutements. Non, je m'adresse aux entrepreneurs. Si vous avez de l'activité, des perspectives d'été, allez-y, vous allez être accompagné, vous êtes accompagné, mais c'est le moment d'embaucher.
8h35. Europe 1. Les questions des auditeurs après Laurence et Pascal, Jean-François, Vivi et Noël qui veulent vous interroger. Muriel Pénicaud, on revient dans quelques secondes.
Europe 1, il est 8h37, vous êtes avec Mathieu Béliard et vous écoutez, vous échangez avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Vos questions, vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et la question de Jean-François, Muriel Pénicaud, qui nous écrit « En restauration, ce n'est pas le chômage partiel qui est d'actualité, mais le surcoût du travail. Pour 80% d'activité, nous avons besoin de 100% du personnel afin de respecter le protocole sanitaire et nos marges s'effondrent. Que faire sinon fermer ?»
Alors d'abord, je voudrais saluer moi les bars, les restaurants qui... étaient dans les starting blocks parce qu'ils n'avaient pas le droit de fermer, qui sont partis très vite, très fort. Et je pense que la France, sur les bars et les restaurants, c'est plus la France. Donc merci à eux pour le coup, l'esprit entrepreneurial, il est là à fond. Alors, sur les protocoles de sécurité, le Covid-19, malheureusement, il n'est pas terminé. On ne peut pas, malheureusement, travailler tout à fait comme avant. Parce qu'on voit bien, il faut garder les gestes barrières, il faut garder les mesures de distanciation. C'est pour ça qu'on a ces protocoles sanitaires. Alors, Hier, nous avons publié sur le site du ministère du Travail une nouvelle version plus allégée, plus assouplie du protocole santé qui, en plus, permet que ça recouvre l'ensemble des 90 guides qu'on avait fait. Donc, c'est plus simple. Mais en même temps, il faut garder la vigilance parce que si ça repart, vous avez vu hier en Allemagne, hein, 600 salariés concernés dans un abattoir, ils ont confiné 600 000 personnes, ils referment les bars, les restaurants, etc. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où le moins possible, où on est obligé de refermer ça. C'est le pire que tout, le stop and go pour le business.
Le moins possible, c'est qu'on envisage tout de même localement de nouvelles fermetures.
Écoutez, on ne peut pas se permettre d'avoir une immense épidémie qui concernerait encore plus grande, qui reviendrait. Donc, s'il y a ici ou là des cas, effectivement, il peut y avoir du confinement local. En Guyane, on ne peut pas aller... aujourd'hui, où il y a beaucoup de cas, on ne peut malheureusement pas encore fonctionner normalement. Donc, moi, je comprends très bien la contrainte pour un restaurateur.
C'est la question de François portait sur le coût du travail, en réalité.
Alors, il y a un sujet de coût du travail, mais c'est pour ça qu'on a fait les reports de charges. C'est pour ça qu'on va faire des exonérations de charges pour le secteur hôtellerie, commerce, restauration, hôtellerie-restauration, qui a été particulièrement touché. L'hôtellerie-restauration a beaucoup utilisé le chômage partiel. Donc oui, l'État est là pour les soutenir. Et oui, c'est dur, mais on va serrer les coudes et on n'abandonnera aucune des entreprises de ce secteur en particulier, qui est très important pour le pays, qui est très fournisseur d'emplois et qui aujourd'hui était un de ceux les plus touchés.
Cette question Révocile, c'est le pseudonyme sur le hashtag Europe 1. Aucune concession, aucun ajustement sur l'assurance chômage pour une interrogation. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de votre réforme, énormément de travailleurs précaires, intérimaires, temps partiel vont se retrouver dans la mouise dès le début du mois de juillet ?
Non mais je l'ai dit, j'ai dit qu'il y aurait des adaptations et qu'elles seraient annoncées en juillet. Alors en juillet il ne se passe rien parce que j'avais pendant la crise, pendant le confinement déjà reporté au mois de septembre l'application des mesures pour qu'on ait le temps de voir la situation économique et voir s'il fallait l'adapter. Donc nous l'avons confirmé hier avec le président de la République, oui il va y avoir des adaptations des réformes d'assurance chômage puisqu'il faut tenir compte de la situation.
Les annonces arriveront en juillet.
Oui, en juillet.
Au mois de juillet. Noël nous écrit au sujet du chômage partiel de longue durée. En fait vous avez nationalisé les salaires, Muriel Pénicaud, à ce compte-là, pourquoi systématiquement refuser les débats sur le revenu universel ?
Alors, oui, je ne pensais pas un jour dans ma vie être à la tête d'un ministère qui serait le plus gros employeur, si c'est la définition, c'est payer les salaires de France.
Finalement, à 84%, vous nationalisez les salaires en ce moment.
Mais heureusement, ça n'est que provisoire, parce que ce n'est pas très sain, et puis ça ne tourne pas très longtemps le moteur économique, si c'est l'État qui le fait, parce que c'est la production de richesse qui permet cette solidarité. Donc c'est parce que il y a le travail, parce qu'il y a l'action des salariés, des entrepreneurs au quotidien, qu'on a pu mettre en place ce système de solidarité, mais qui, évidemment, ne doit pas durer tel quel. Donc, mon but, c'est, si on pouvait ne pas avoir de chômage partiel, parce que tout le monde avait retrouvé un emploi, le travailler tous, ça, c'est mon but de tous les jours. Le revenu universel, c'est autre chose. On a le RSA, déjà, en France. Moi, je pense que le but premier, c'est que tout le monde puisse avoir un travail, parce que le travail, c'est d'abord une rémunération qui est toujours plus élevée qu'un revenu de substitution, mais c'est aussi le lien social, les collègues, la dignité du travail, la fierté. Moi, je crois à la valeur travail. Je crois que le travail, ça peut être une source d'épanouissement. Tout travail n'est pas épanouissant, il faut l'améliorer. Mais il faut aller vers cette société et permettre à chacun de vivre de ses revenus parce que aussi il a produit, il a contribué à la nation. Ben, c'est un projet de société qui est quand même plus engageant et plus intéressant.
Merci Muriel Pénicaud d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs ce matin. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, les acteurs de l'actualité, vous le savez, en direct le matin sur Europe 1, 8h42.
Europe 1, dans un instant.
Et notez simplement le rendez-vous demain matin, 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il y a le pan économique de cette crise et le pan sanitaire. Ça sera sur Europe 1 demain matin.
Et vous restez avec nous, la revue de presse, Nicolas Cantelou et Julie, dans un instant. Europe 1, 9h moins le quart.
Et ils sont là, Nicolas Cantelou avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantelou. Elles sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invitée.
Oui, mon invitée, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Alors, doit-on s'attendre à une vraie casse sociale dans ce pays ? Muriel Pénicaud, répondez à cette question. Y a-t-il un risque de casse sociale ? Excusez-moi de poser cette question sociale, excusez-moi d'être de gauche ce matin, et c'est ma question.
Donc, est-ce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les chiffres de la catégorie A.
La catégorie A, c'est ceux qui n'ont pas du tout de travail. Et même au black, et qui n'en auront jamais. Donc c'est foutu pour eux. Mais moi j'ai des offres d'emploi, tous les matins, je regarde des offres d'emploi. Et je peux vous dire, ce matin, qu'il y a 553 800 d'emploi.
Oh non.
Parce qu'ici, pour regarder les offres, je vous invite à regarder les chiffres, à le faire, monsieur Béliard. Et au gouvernement, je peux vous dire qu'en ce moment, avec le remaniement qui arrive, tous les matins, il y en a beaucoup qui regardent les offres d'emploi. Christophe Castaner, depuis 3 semaines, il regarde toutes les offres d'emploi. Surtout vous, monsieur Béliard, je vous invite à. Moi, j'ai pas d'infos, mais enfin, je regarde les offres d'emploi. Merci, Muriel Pénicaud.
Bon. Écoutez, je vais regarder alors.
Allez. Justement, c'est à vous, Mathieu. Tiens,
oui, merci, ma chère Julie. Bienvenue sur Europe 1, une radio où je suis toujours très, très heureux de travailler. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est le mercato, je dis rien. Allez. L'info, c'est. Nous avons parlé, c'est Didier Raoul qui était auditionné par la commission d'enquête parlementaire et qui a.
Ah, Saint-Didier Raoult, le Marseillais qui a sauvé le monde, est allé répandre hier devant la commission de l'Assemblée nationale. Il est allé répandre la bonne parole. Tu peux compter sur moi. Oui, moi, Jean-Claude Gaudin, ton humble apôtre pour porter ton message, Monseigneur Raoult. Repentez-vous, je le dis à tous et toutes, repentez-vous, mécréants, tous ceux qui s'étaient moqués de lui, là, hein, les membres de cette commission. Didier Raoult est venu leur expliquer 3 heures durant que c'était tous des cons et des blaireaux. Voilà, il a dit des blaireaux. Voilà, oui. Saint Didier, il est un peu plus cash que Jésus, vous l'avez compris. Un peu plus marseillais. Voilà, bref, il est parfait.
Ah bah si vous le dites. Merci Monsieur Godin.
Je vous en prie.
Didier Raoult, qui était donc entendu par la commission d'enquête parlementaire sur le Covid hier, une commission dont le rapporteur est Éric Ciotti et nos équipes étaient sur place. Ambiance. Oui.
Bonjour, s'il vous plaît, messieurs, on va arrêter les flashs. Voilà, on se concentre un peu. Bonjour, monsieur Raoult, merci d'avoir répondu présent. Merci de vous présenter à cette commission d'enquête qui va faire son travail en toute transparence, et j'insiste là-dessus, en toute concomitance.
Il y avait longtemps.
Monsieur Raoult, vos résultats marseillais que vous contrôliez d'ailleurs vous-même, était meilleur que partout en France ailleurs. La science a-t-elle ainsi démontré, pouvez-vous nous le confirmer, que le gouvernement n'a rien fait?
Écoutez, moi je suis un médecin, je suis un scientifique, je ne suis pas un devin. Hein. Mais à l'évidence, au gouvernement, ce sont tous des tocards.
Hein. Oui.
Je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux dans la médecine. Personne, à l'évidence, n'aurait pu avoir de meilleurs résultats, voilà, c'est tout. Comparé à moi, tout le monde a de la purée de céleri dans le cerveau, voilà, c'est ce que je vous dis.
D'accord, donc je prends note, tout le monde, à part vous, a de la purée de céleri. Céleri, on vérifiera à l'Assemblée ce que veut dire céleri dans le cerveau. Voilà. Peut-être un mot, monsieur Raoult, monsieur le professeur, sur la chloroquine. Hein, en mars dernier, vous l'avez utilisée sur monsieur Estrosi Christian. Que je connais bien, puisque nous étions en concurrence pour la mairie de Nice,
ah oui,
et que je ne peux pas l'encadrer de façon concomitante. Comment expliquez-vous les résultats désastreux sur M. Estrosi, les résultats désastreux de votre traitement?
Non, écoutez, mon traitement n'est pas désastreux. Hein. Estrosi, il a été guéri, que je sache.
Bon. Oui, mais justement, on attend vos justifications. Hein. J'espère que vous avez pris votre soirée, parce que je ne vous laisserai pas sortir tant que vous n'aurez pas une explication qui soit concomitante.
Merci pour ce document. Très intéressant. Allez, les salariés de BFM ont voté une grève inédite pour manifester contre le plan social organisé par leur patron, Patrick Drahi. On va se connecter à la matinale de Christophe Delay sur BFM.
Bonjour et bienvenue sur BFM Télé. L'info ce matin, c'est la chaleur. Vous l'avez compris, la chaleur, il fait chaud. Tout de suite, un jingle météo. Voilà, alors écoutez, cela peut, chers téléspectateurs, vous sembler un petit peu excessif comme jingle, mais on va tout vous dire, on va être transparent avec vous ce matin.
Plusieurs membres de la rédaction, on n'est pas habitué à ça, sont en grève ce matin, donc je dois lancer les jingles moi-même. Donc vous l'avez compris, voilà, on reparle de cette grève tout de suite avec un jingle conflit social. You're beautiful. Merde. Chers auditeurs, excusez-moi, je me suis trompé de lancement de bouton, plus exactement. C'est l'amour est dans le pré, ça, qu'est-ce que ça fout là? Non, bon, on n'a pas trop la notion de conflit, donc du coup, bon, bref, on va retrouver Patrick Sauce, pardonnez-nous pour ces petits impairs. Patrick Sauce, notre envoyé spécial sur cette grève avec son binôme Serge Béarnaise. Patrick,
trahi, si tu savais ton plan départ, où on se met au cul, au cul, aucune hésitation. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, Christophe, je suis avec les collègues grévistes qui sont en train de faire brûler des dépêches AFP pour faire cuire des merguez dessus. Mais on ne sait pas encore si elles seront cuites correctement. C'est notre vraie question, c'est notre vrai tâtonnement ce matin, notre vrai questionnement, devrais-je dire.
Oui, donc c'est ça l'odeur de barbecue que nous avons en plateau. Patrick, soyez indulgent tout de même avec nos camarades. BFM, jusque-là, c'est vrai qu'on a surtout filmé les manifs pour les critiquer. C'est la première fois qu'on doit en faire une, donc c'est normal que nous tâtonnions au début. Mais nous sommes tous ensemble, ouais. Ouais,
Christophe, les CRS arrivent, priorité donc au direct.
Oula, oula.
Patrick,
une bagarre là.
Patrick. Oui, bon, écoutez, là.
Non, les CRS nous tapent dessus, Christophe.
Voilà, oula, bon, écoutez, je vous avoue, je suis en direct à l'antenne, je ne sais pas trop quel positionnement prendre, Patrick, venir vous aider, ce serait défendre un manifestant, et vous savez que ça, c'est interdit par le règlement éditorial de notre chaîne, et en même temps, ici à BFM, nous devons aussi lutter pour nos droits face à l'oppression du grand capital marchand. C'est un véritable grand écart pour nous. On va écouter, voilà ce qu'on va faire. On va marquer une pause pour réfléchir à tout ça, parce que j'ai le cerveau qui fume, autant que vous l'avouez ce matin. En tout cas, on vous rappelle la principale information de cette édition. Il fait chaud. Voilà. À vous, Julie.
Bravo. Merci, Patrick. Merci, Christophe Delay, plutôt. Allez, c'est ce soir sur BFM, justement, qu'aura lieu le dernier grand débat pour Paris. Il a été reporté à cause de la grève. Il devait avoir lieu hier. On est en ligne. On est en ligne avec Annie Hidalgo. Bonjour Madame Hidalgo. Alors on fait quoi le jour d'un grand débat? Racontez-nous votre journée.
Pardon, oui, bien on se prépare activement.
Ah, mais on c'est entend une petite musique là derrière vous. Non mais vous pouvez nous dire où vous êtes?
Merci
là parce que...
Merci mademoiselle pour la serviette. Pardon.
Vous êtes où exactement là?
Ah là je suis au spa.
Ah,
j'ai un massage à 9h, dommage à 10h. Et après je vais aller prendre... je vais faire un petit tour en terrasse, puis l'après-midi, ce sera shopping et trottinette. Hein.
Non mais attendez, mais le débat de ce soir, vous le préparez pas?
Mais quoi? Mais si. Mais bon, on va pas se mentir, je débat contre Agnès Buzyn, qui est soutenue par personne, et je débat contre Rachida Dati, qui est soutenue par Marine Le Pen. Donc vous l'avez compris, c'est plié. C'est re-moi pour 6 ans. À part bien sûr si je refous le feu à Notre-Dame de Paris avant dimanche. Mais je dois vous l'avouer, ce n'est pas dans mes projets.
Eh ben d'accord. Allez, merci Anne Hidalgo.
Merci.
Pour terminer, on va parler
un petit peu de galets chauds.
Des galets chauds. On termine avec Jean-Marie Bigard qui a annoncé qu'il allait finalement se lancer dans la course à la présidentielle pour 2022. Patrick Sébastien, vous avez tenté de l'en dissuader, il paraît.
Salut en voiture, ouais, salut à tous. Écoute. Ouais, Jean-Marie, c'est mon pote. Et moi, je pense qu'il a aucun intérêt à se lancer en ce merdier, tu vois. J'en parlais hier avec lui et avec un pote à nous, un magicien suédois qui arrive à sculpter le visage de Popek les yeux bandés. Extraordinaire,
ouais,
le mec il jongle avec une tronçonneuse sur une musique d'Annie Cordy et te reproduit un Popek de 3 mètres de haut. Et après, c'est génial.
Oui, d'accord, mais. Non, mais s'il vous plaît, on peut rester concentré. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Bigard?
J'ai dit à Jean-Marie, Jean-Marie, si tu te lances là-dedans, faut que tu affines ta vision politique. Ça va être quoi ton positionnement vis-à-vis de la politique économique européenne? Ouais, aujourd'hui, le clivage nord-sud, il se fait surtout au sujet des eurobonds. Tu vois, les eurobonds, parce que Merkel, elle a accepté le deal en faisant la grimace, donc les budgets sont incertains. Et c'est ça la grande question demain. Ouais, Julie. Ouais, je t'ai scié la nouille, là, Julie.
Ah, bah oui,
drôlement. Ah, tu t'es. Eh, barré. Eh, barré. Eh, de tarlé. Vous n'attendiez pas à ce que je m'y connaisse. Hein.
Ah, bah non, hein, on avoue que c'est surprenant, là. Bon, qu'est-ce qu'il vous a répondu, alors, Bigard?
Ah ben, il m'a répondu, Merkel, qu'elle aille se faire enculer. J'ai dit, Jean-Marie, merde, t'es pas prêt pour être président. Après, peut-être que je me trompe, après tout, Donald Trump, il a commencé comme ça aussi. Ah, d'ailleurs, mon pote Donald Trump, il faut que je vous montre une vidéo, qui est géniale.
Oui.
C'est un jongleur chinois, naturiste.
Mm-hmm.
Il fait tourner les assiettes avec le visage de Donald Trump sur les assiettes,
oui.
Mais sans les mains et sans les pieds. Je te laisse imaginer avec quoi il fait tourner. C'est génial. Ah, la politique, c'est passionnant, j'adore.
On avance dans le débat public. Dans 2 ans, la présidentielle, ça va être quelque chose. Patrick Sébastien est directeur de campagne. Merci Nicolas Canteloup. La revue de presse qui est retrouvée sur Europe1.fr. On vous retrouve demain, évidemment, à la même heure avec Julie. Philippe Vandel est avec nous en studio. C'est Culture Média qui va démarrer de 9h à 11h.
Bonjour. Oui, bonjour. Philippe. On sera avec Marie-Sophie Lacaro qui présente ce soir sur France 2 100 ans de comédie musicale. Et c'est une belle manière de faire vivre le site d'action qui n'avait pas eu lieu pour cause de Covid. Et puis, tiens, on va poser la question à Élie Semoun sur la candidature de Bigard à la présidentielle puisque c'est notre invité. Il vient pour la sortie de Duc au but 3 en DVD, ça a cartonné, mais on va parler de plein de choses avec lui pendant le confinement. Je ne sais pas si vous avez vu, il a rendu visite à son papa à l'EHPAD, il s'est mis la boule à zéro, il a fait des vidéos avec Élie Semoun, avec Franck Dubosc. Bref, plein de questions, je ne m'en remets pas de cette candidature à la présidentielle.
Philippe Bordel, c'est Culture Média, 9h-11h, la matinée qui continue sur Europe 1. Nous, Ombline, on va revenir demain.
Oui, demain 5h avec Julien Pierce.
Moi, je serai là à 6h, d'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.
C'était Mathieu Béliard sur Europe 1.
Europe 1.